L'ancien ministre de l'écologie, donc Yves Cochet, fait partie d'une espèce rare, les catastrophistes. Il ne serait qu'une centaine dans le monde. Les catastrophistes nous alertent de l'imminence de l'effondrement qui nous guette. Car selon Yves Cochet, précurseur en matière de collapsologie, le monde va s'écrouler et notre civilisation thermo-industrielle disparaître entre 2020 et 2025. Autant dire demain matin, exit l'électricité, les iPhones et les week-ends à Rome, puisque le principal moyen de transport dans 10 ans sera le cheval. Yves Cochet publie Devant l'effondrement et c'est de collapsologie. Il est mon invité dans un instant et vous pouvez bien sûr lui poser toutes vos questions. 01 45 24 7000 franceinter.fr et le mot-clé la TAC. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour.
Vous passez au verre dans quelques minutes, bien sûr.
Et oui, je vous emmène boire un verre, tiens, en terrasse, mais chauffé.
Dans la deuxième demi-heure, un nouvel épisode de la série proposée par Sandy Dauphin dans la commune écolo de Langouette, en Bretagne. Il sera question de transport aujourd'hui. Vos solutions pour la planète avec Jean-François, un auditeur de Normandie qui va nous parler de l'ORE, l'obligation réelle environnementale, un contrat qui permet de protéger ses terres et la biodiversité. Et puis enfin, notre invité découverte est Francis Duranton, le directeur du Muséum de Toulouse, pour nous parler de l'exposition Extinction, la fin d'un monde, décidément, qui ouvre ses portes aujourd'hui. Voilà pour le sommaire de cette émission. Réalisé par Valérie Ayestaraï avec à la technique Élise Christophe et Loïc Frapsos.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Bonjour Yves Cochet.
Bonjour.
Bienvenue, vous publiez Devant l'effondrement, essai de collapsologie aux éditions Les Liens qui libèrent. Page 119 de votre livre, vous rassurez votre lecteur quelque peu ébranlé par la lecture de votre ouvrage en lui confiant que justement ce livre n'est pas l'œuvre d'un psychopathe extrémiste se vautrant dans la noirceur et le désespoir. Et lorsque vous annoncez la fin de la civilisation pour 2030, c'est-à-dire dans 10 ans seulement, vous êtes selon vous dans le scénario le plus réaliste.
Oui, je me suis évidemment appuyé sur... Excusez-moi. Les rapports de l'ONU, notamment ceux du GIEC sur le climat, de l'IPBES en ce qui concerne l'érosion de la biodiversité, ou bien ceux qui sont moins lus mais qui sont très intéressants, qui sont très globaux, les rapports du Programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE, et qui publie les GEO, Global Environmental Outlook, c'est les perspectives de l'état de santé de la planète, et tous ces rapports ont d'ailleurs une vertu. D'une part, ils existent depuis une trentaine d'années maintenant, et ils sont publiés tous les 3, 4, 5 ans. Et en fait, le rapport actuel, en fait, dément le précédent, les savants disant, écoutez, au précédent, on était un petit peu timorés. En fait, c'est beaucoup plus grave qu'on vous l'a dit il y a 5 ans. Alors moi, je n'ai pas fait d'études spécialement sur ces rapports, mais je les ai lus, y compris les gros rapports, avec plein de graphes, d'images, mais de courbes, etc. Et ce que j'en déduis, c'est que, en effet, une sorte de fin du monde est proche, imminente, et qu'elle sera à la fois systémique et globale. Globale au sens que tous les pays de la Terre seront touchés, donc c'est une question vraiment planétaire, non pas simplement européenne ou française. Et d'autre part, systémique, ça veut dire que tous les aspects de notre vie collective, politique ou individuelle seront également touchés.
Alors, pour ceux qui vous reprochent de jouer sur la peur, vous répondez que, au contraire, provoquer l'anxiété est tout à fait mobilisateur. Est-ce que vous ne craignez pas justement un effet de dissonance cognitive? Vous en parlez vous-même d'ailleurs dans l'ouvrage avec le déni général.
Bien entendu, il faut faire très attention avec la peur, mais il faut aussi faire très attention avec la vérité. Et donc, j'ai préféré une vérité crue, rationaliste, raisonnable, centrale et le plus probable, plutôt que des boniments écolos un peu à l'emporte-pièce en disant « faites-nous confiance, ça ira mieux demain, avec plus de croissance, plus de technologie et plus de marché, on va résoudre ces quelques problèmes écologiques et ces quelques problèmes de différenciation sociale ». Non, 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 les choses ne vont pas être résolues. D'ailleurs, depuis 30 ans, l'état de santé de la planète ne cesse d'empirer, comme le montrent les rapports dont je citais l'origine tout à l'heure. Et d'autre part, ça n'est pas des phénomènes linéaires, c'est-à-dire c'est pas incrémental, gradualiste. Il peut y avoir des ruptures franches très rapides, de l'ordre de quelques mois ou quelques années. Et c'est, je crois, ce qui va arriver, car on observe ça dans beaucoup de domaines de l'écologie scientifique, cette fois-ci, comme par exemple, prenons un exemple très concret, la fonte du pergélisol. On appelle ça le permafrost, parfois, dans la toundra soviétique, plutôt sibérienne maintenant. Eh bien, il suffit de quelques dixièmes de degrés pour passer du gel à la gadoue, à l'eau. Et à ce moment-là, vous libérez des milliards de bulles de méthane, dont ce qu'on appelle le pouvoir radiatif, c'est-à-dire la force d'entraînement sur les émissions de gaz à effet de serre des dérèglements climatiques, est 30 fois supérieure au CO2. Et là, vous pouvez gagner plusieurs, disons, un réchauffement extrêmement rapide en quelques années.
Alors, l'effondrement de la civilisation pour 2030 ou 2035, vous laissez quelques
années.
Oui, je ne
suis pas 50 ans. Je ne suis pas 50 ans, je ne suis pas Madame Soleil.
Nous non plus d'ailleurs, mais quand vous parlez de vérité, ce n'est pas un peu gênant, parce que la vérité, en parlant du futur, c'est quand même quelque chose de très risqué quand même, non?
C'est une vérité probabiliste. Moi, je pense que c'est le scénario le plus probable, au point même que j'en suis certain. Mais je vois que 99,9%, disons, de mes concitoyens, des décideurs politiques notamment, ou des capitaine d'industrie, ils disent, mais non, c'est très exagéré, c'est encore un écolo-extrémiste et radical. Je suis ni extrémiste ni radical, je suis plutôt un réformiste rationnel et calculateur et mathématicien et froid. J'ai peur, on me dit, mais vous êtes pessimiste. C'est pas une question de pessimisme ou de sentiment ou d'optimisme, c'est une question de regarder les chiffres et leur évolution avec ce côté non linéaire, passage de seuil. Ouais. Quand on passe un seuil en écologie, d'une part, il est souvent difficile de revenir en arrière et après, la chose s'emballe d'elle-même.
Il y a un point de rupture, c'est ce que vous décrivez. Justement, dans
cette tipping point.
C'est quoi d'ailleurs l'effondrement? Qu'est-ce qu'on entend par effondrement? Ça se traduit comment alors?
J'ai une définition qui est un petit peu administrative, mais qui montre bien les choses. On appelle processus d'effondrement un processus pendant lequel et à l'issue duquel, eh bien, les besoins de base d'une majorité de la population ne sont pas fournis par des services encadrés par l'État. Alors, ça veut dire que l'eau courante, l'électricité courante, l'alimentation, l'école, les transports, tout ça va à volo. Et donc, si vous voulez avoir, vous êtes dans un immeuble haussmannien à Paris, est-ce que j'ai de l'eau robinet? Ah, bah, tiens, le robinet ne marche plus. Est-ce que j'ai mon ascenseur? Je suis au 7e pour monter. Non, l'ascenseur ne marche plus non plus. L'électricité, elle est intermittente comme dans la bande de Gaza. Ah, la vie change. Ouais. Donc, c'est à ça qu'il faut ça s'adresser et évidemment le préparer bien à l'avance, car si c'est au moment de l'effondrement, il est trop tard.
Bah, surtout qu'il ne reste pas beaucoup de temps quand même, parce que là on est sur des échelles très très courtes.
5, 10, 15 ans.
Dans 10 ans, vous nous voyez avec un cheval à la place de la voiture?
Oui, alors à propos justement, Madame Borne a fait voter une loi sur la mobilité récemment. Et puis elle
vous
dit
que vaudrait mieux ouvrir des écuries un peu partout.
Mais bien entendu, elle dit à Renault et Peugeot, construisez des voitures électriques, des voitures autonomes, intelligentes, sans chauffeur, intelligence artificielle et tout. Pas du tout. Ce qu'il faut faire, actuellement on a à peu près 200 000 chevaux de trait en France pour la traction animale. Il en faudrait 10 millions en 2035. Ouais. Donc c'est pas en 2034 qu'il faudra les faire. C'est maintenant. Donc la bonne politique des transports, ça fait rire tout le monde, je vous le préviens. Ouais. Y compris, non, vous souriez un petit peu, mais pas trop. Eh bien, en 2035, il en faudrait 10 millions. Donc c'est pas en 2034 qu'on va dire aux juments, vous allez pondre des poulains. Non, c'est maintenant qu'il faut aider les haras nationaux et même les élevages privés.
Yves Cochet, la question de la démographie qui est aussi présente dans ce livre, une question qui est assez tabou. D'ailleurs en France, vous n'y alliez pas avec le dos de la cuillère sur ce sujet. Selon vous, un nombre modéré d'humains sur un territoire est l'un des facteurs déterminants de sa soutenabilité. Et vous parlez d'une écologie donc des populations avec un chiffre idéal qui serait 1 milliard de personnes sur Terre.
Si nous voulions vivre comme vivent actuellement les
Européens
ouais. Avec ce niveau de vie.
1 milliard.
Mais de toute façon, d'après les chiffres de l'ONU, encore une fois, vous vous souvenez peut-être de ce rapport du 8 octobre 2018. Voilà. Un an et un jour exactement, 8 octobre 2018, et je cite la phrase de l'ONU mot pour mot, entre 2030 et 2035, il est vraisemblable que la moitié de l'humanité sera en péril vital. Péril vital? C'est-à-dire qu'il pourrait mourir en 5 ans 3 milliards de personnes.
De quoi d'ailleurs? D'épidémies, de guerres, de famines.
D'épidémies, de famines et de guerres civiles.
Ça, c'est les trois. Et ça, c'est ce que vous prévoyez dans les 10, 15
prochaines
années.
C'est ce que prévoit l'ONU il y a un an. Et moi, je me dis, ils ont sans doute raison, d'après parce que j'ai beaucoup lu quand même, ils ont sans doute raison, donc il faut se préparer à des drames humains considérables comme jamais on en a vu.
Alors, pour ceux qui auront la chance de survivre, parce qu'il y en aura quand même, heureusement...
S'il n'y a pas d'épisode nucléaire.
Oui, 2050, vous prévoyez là une renaissance qui sera... Parce que là, les pires des années, c'est celle à venir. Vous décrivez vraiment une situation apocalyptique.
Oui, c'est les années 20 et 30. Voilà. Oui.
Et ensuite, 2050, donc là, c'est la renaissance. Qu'est-ce qui va se passer alors?
Eh bien... On vivra donc dans les années 20 et 30 sur les restes de la civilisation, mais il y en aura quand même beaucoup, non seulement des conserves, mais aussi du métal, du plastique et des tas de choses. Et puis à partir peut-être des années 40, encore une fois, je suis pas à 5 ans près, bien entendu, eh bien il faudra reconstruire quelque chose from scratch, comme on dit en américain, c'est-à-dire à partir de rien, car il n'y aura plus de restes, il n'y aura plus d'industrie, il n'y aura plus de sidérurgie, donc il faudra refaire par exemple les forges de Pimpon, comme on dit dans ma Bretagne natale,
ouais.
C'est-à-dire avec du charbon de bois, car avec du charbon de bois, vous pouvez obtenir des températures beaucoup plus hautes qu'avec du charbon, pas du charbon, mais avec du bois. Le charbon, ça ne sera plus exploité en 2050.
Yves Cochet, est-ce qu'il n'y a pas un risque de paco-rabanisation, finalement,
Alors, bien entendu, on dit, mais écoutez, il y a eu déjà des millénaristes, voilà, 1000 ans, et paco-rabanne, il y a 30 ans, ou 50 ans.
Tout le monde s'est planté, hein.
Tout le monde s'est planté, oui, mais comme disent mes amis américains, je parle décidément beaucoup l'américain. This time it's different. Cette fois-ci, c'est différent.
C'est quoi la différence?
Eh bien, la différence, c'est que c'est tout le monde entier. Il y a eu l'extinction, finalement, de l'Empire romain. Il y a eu l'extinction des Mayas des plaines. Il y a eu l'extinction des habitants de l'île de Pâques. Mais finalement, il y a eu encore les Chinois et les Indiens qui habitaient à côté. Là, c'est le monde entier, dans tous les domaines. Et regardez encore une fois, vraiment, moi, j'ai un raisonnement matérialiste. Hein. Je regarde l'état de la planète. Et l'état de la planète, avec des courbes qui ne sont pas linéaires, ça veut dire qu'il va y avoir des seuils de dépasser. Il y en a déjà de dépasser en matière de dérèglement climatique.
Ouais. Enfin, vous êtes un peu seul, quand même, parce que vous dites, on est 10 catastrophistes en France, une centaine dans le monde.
Non, vous disiez 100 dans le monde. Non, disons qu'on est 100 en France et 5000 dans le monde. J'ai pas compté, bien entendu. Non, on est extrêmement seul. Le déni est général. Ouais. Il y a eu les climato-sceptiques depuis 30 ans. Il y a maintenant les collapso-sceptiques. Je le comprends. Car le scepticisme, voire le déni, est finalement le réflexe le plus raisonnable et à tenir. Bien entendu, personne ne veut penser à ça.
Yves Cochet, vous êtes l'invité de la Terre au Carré. Les auditeurs souhaitent dialoguer avec vous au standard 01 45 24 7000. Ça s'appelle Devant l'effondrement et ça sort au lien qui libère.
France Inter. La Terre au Carré.
Camille passe au vert et à l'apéro en l'occurrence, vous nous parlez des terrasses chauffées dans les villes et notamment Paris, Camille.
Oui, vous savez, ces espèces de parasols avec bouteilles de gaz intégrées ou les radiateurs électriques alignés au-dessus des tables, tous rougeoyants en ce moment le soir alors qu'il fait plus de 15 degrés. Ça a mis dans tous ces états notre Thomas Legrand qui tweetait samedi soir la photo d'une terrasse chauffée dans le quartier des Halles et notre Chantal Le Montagnier ici à la Terre au Carré bondissant l'autre matin. Camille, il faut que tu fasses quelque chose sur ces chauffages d'extérieur. Il y en a partout, c'est n'importe quoi. Voici donc Mathieu parti enquêter sur le terrain.
On peut vous commander comme ça des reportages aussi facilement.
Voilà, à l'heure du verre de rouge et de la planche de fromage, où mes voisins de table m'assurent d'abord et bien évidemment que l'écologie, c'est important pour eux.
J'essaie de faire les efforts du mieux possible, quoi.
Je fais attention.
Ah bah oui, évidemment, oui. Enfin, je fais ma planète, oui.
Alors je vous pose la question parce que je vais sur plusieurs terrasses avec les chauffages qui sont allumés.
Ouais.
Ouais, ouais, parce que juste au-dessus de sa tête, eh bien, il y a quatre radiateurs en train de chauffer.
On va être honnête avec vous et clairement, on s'est mis là parce qu'on avait froid et qu'il y avait ça, ouais.
Alors au moins, elle assume, sauf qu'à ce moment précis de la soirée, il fait 17 degrés. D'ailleurs, certains trouvent au contraire que le chauffage est totalement accessoire.
Avec ma doudoune, ça va, là. Il n'y a pas besoin de forcément l'allumer, quoi.
Je pense que là, aujourd'hui,
oui, au mois d'octobre,
on aurait pu s'en passer.
On chauffe plus l'air qu'on sent la chaleur, hein. On est d'accord. Peut-être qu'on devrait juste se rappeler qu'il y a 15 ans, les terrasses n'étaient pas chauffées.
Il fait 17 degrés. Est-ce que vous comprenez qu'ils allument tous leur chauffage?
Non, je comprends pas qu'ils allument. Ça n'a pas d'intérêt, mais il y a plein de choses comme ça. Tous les soirs, on peste parce qu'on passe devant une agence immobilière, on va pas citer le nom, mais qui est allumée toute la nuit, mais elle étincelle. Et plein feu, donc à quoi ça sert aussi?
Et summum du n'importe quoi, ce que s'apprête à faire ce client juste en dessous d'un radiateur.
Je vais enlever ma polaire et mon écharpe et ça ira bien aussi.
Voilà, il se met en t-shirt pour ne pas avoir trop chaud donc.
Ça chauffe pas mal là.
Ça chauffe bien, ouais. Ouais, je pense que si on s'approche assez près, on peut cuire un poulet, ouais.
Alors j'ai demandé aux différents serveurs et patrons pourquoi ils les allument ces chauffages, hein, que la mairie au passage voulait interdire en 2013 par souci écologique, mais la justice a annulé cette interdiction et j'ai eu droit à autant d'accueil que de réponses différentes.
Est-ce que vous trouvez que c'est normal juste que ce soit allumé alors qu'il fait 17 degrés?
Justement, mais justement là vous touchez à un point sensible, vous enregistrez?
Ouais.
Alors les chauffages, il faut savoir un truc, c'est que s'il n'y a pas de clients, on les éteint, déjà d'une. De deux, ça sauve peut-être le client d'une bonne grippe.
Il fait 17 degrés.
Mais vous rigolez, le vent frais, ça compte. Un petit vent frais, c'est fini.
Mais vous savez que c'est mauvais pour la planète?
Bah ouais, c'est mauvais pour la planète. Mais l'usine Seveso, est-ce que ça fait pas beaucoup plus de dégâts que ça? Vous pensez que c'est le petit patron du coin dans son bistrot qui pollue le plus?
Je
vous pensez
pas.
Que c'est pas les grosses mais multinationales qui polluent le plus? Vous pensez pas que c'est l'homme d'affaires en classe affaires qui pollue le plus? Ou un jet privé?
Allez, bim, prends ça, Cronier, j'ai pas pu en placer une.
Oui, hein.
Deuxième bistrot, nouvelle raison d'allumer le chauffage.
Alors, la clientèle, à la fin de la journée, on va dire qu'ils ont froid, ils sont fatigués, ils ont envie d'apprécier leur verre. Quand on se pose après une journée de travail, bah, on se refroidit. À la limite, en écologie, s'il y a des bonnes questions à nous poser, ce serait limite sur les pailles, sur les fumeurs, sur les...
Vous avez enlevé les pailles?
Non, pas encore.
Et là, une collègue coupe la conversation et m'accompagne gentiment vers la sortie.
Là, moi, je vous dis que ça se dit, c'est tout.
D'accord, donc je me fais jeter, en fait.
Mais pas du tout, mais moi, j'ai aucun problème. J'ai aucun problème avec l'écologie, j'ai aucun problème avec ça. C'est juste que là, ça suffit, c'est tout.
Ok. Voilà.
Voilà. Ce serait donc surtout pour ne pas perdre... la grande explication, plutôt, vous allez entendre, c'est plutôt pour ne pas perdre de clients. Et c'est un autre gérant qui a eu l'honnêteté de me la donner derrière son comptoir.
Je suis tout à fait conscient que c'est pas très bon. Mais nous, pour notre chiffre d'affaires, on est obligé de les mettre. Surtout si sur les autres terrasses, ils sont allumés. Moi, ça me coûte de l'argent, les chauffages. Je vais pas les allumer comme ça pour le plaisir de réchauffer la planète.
Et puis après tout, vous savez quoi? Les clients, ils s'installent sur ces terrasses. Ils le choisissent, eux.
On va pas se le cacher, on reste quand même un peu égoïste. Donc l'écologie, c'est bien, mais avoir froid, c'est nul.
Et voilà, et choisir la salle à l'intérieur plutôt que la terrasse, par exemple.
Non, parce que je fume, donc je reste en terrasse. Je pense plus à mon confort. Si j'ai froid, j'aimerais bien avoir un chauffage.
Voilà, une parfaite illustration de nos contradictions que constate une jeune cliente attablée à une terrasse qui, elle, n'avait pas ses chauffages allumés. Incroyable.
En l'occurrence, nous, on est une génération qui commençons à nous battre pour l'écologie et on s'offusque de certaines choses et à côté, il y a certains conforts qu'on n'accepte pas de perdre, en fait. Et je trouve ça très paradoxal.
Et oui, c'est toute l'histoire, finalement, de la transition écologique. La prise de conscience est une première étape, c'est donc déjà pas mal.
Et Camille Passauvert, c'est à réécouter, évidemment, sur franceinter.fr.
Yves Cochet, vous aviez, il y a une dizaine d'années, me semble-t-il, déposé une proposition de loi pour interdire les chauffages en terrasse, que ce soit gaz ou électricité. C'est quoi l'impact écologique réel? Une lampe, je crois que c'est 1500 watts.
Ah, il suffit de multiplier 1500 par le nombre de telles lampes sur les terrasses de Paris, par exemple, pour voir que c'est considérable. Et puis c'est stupide du point de vue simplement écologique et thermique, même thermodynamique. Moi, je me souviens d'avoir été à Copenhague, au moment d'ailleurs de la COP de Copenhague, qui avait été un échec, vous souvenez, climatique. Eh bien là, il n'y a pas du tout de chauffage de terrasse. Il y a des gens en terrasse.
Est-ce qu'il y a beaucoup de grippe,
hein? Mais ils ont des couvertures.
On leur offre des
couvertures et des plaides. Et c'est ce qu'il faut faire à Paris.
Et pourquoi elle n'était pas passée, votre proposition de loi?
On n'avait pas eu la niche parlementaire pour le faire. C'était simplement une écriture, mais on avait essayé d'alerter le gouvernement de l'époque qui s'en foutait.
Yves Cochet, notre invité dans la Terre au carré, 01 45 24 7000 pour parler collapsologie avec lui.
Faux, ça n'est pas caché. Faux, ça n'est pas caché. Faux, ça n'est pas caché. Ça n'est pas caché. We did. We got tight. We did. We got tight. We did. We got tight. We did. We got. Malgré les apparences, ville bleue sous le beige. Malgré les avalanches, vivent les formes sous la neige. Malgré les apparences. Le bleu sous le berge, malgré les avalanches, vivent les formes sous la neige. C'est là, ça se sent, tu sais, ça ne se voit peut-être pas, mais ça se perçoit. Parfois, au détour d'une phrase que tu dis quand tout le monde se regarde en se disant un quoi, c'est ça. Ça se sent, tu sais, ça ne se voit peut-être pas, mais ça se perçoit. Mais si, parfois, au détour d'une phrase que tu dis quand tout le monde se regarde, mais ouais, malgré les apparences, vit le bleu sous le berge. Malgré les avalanches, vivent les formes sous la neige. Les apparences, vit le bleu sous le berge. Malgré les avalanches, vivent les formes sous la neige. C'est là, ça se voit, tu sais, maintenant ça se voit même très bien. C'est très net, ça a déteint sur toi comme un peu de chine. T'as même plus besoin de parler, c'est encore là, ouais. Ça se voit, tu sais, maintenant ça se voit même très bien. C'est très net, ça a déteint sur toi comme un peu de chine. Regarde juste là, t'en as. Malgré les apparences, vit le bleu sous le berge. Malgré les avalanches, vivent les formes sous la neige. Malgré les apparences, vit le bleu sous le berge. Malgré les avalanches, vivent les formes sous la neige. C'est là, y'a plus que ça, tu sais, t'as disparu derrière ou dedans, on sait pas, mais t'es plus là. Y'a plus que ça, tu sais, tellement qu'on se demande si c'est ça, mais c'est toi ou pas, c'est toi. Y'a plus que ça, tu sais, t'as disparu derrière ou dedans, on sait pas, mais t'es plus là. Y'a plus que ça, tu sais, tellement qu'on se demande si c'est ça, mais c'est toi.
Ça n'est pas caché. Ça n'est pas caché.
Malgré les apparences, vit le bleu sous le berge. Malgré les avalanches, vivent les formes sous la neige. malgré les apparences, ville bleue sous le berge, malgré les avalanches, vive les fonds sous la neige.
Avalanche, c'était Batlick.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Personne ne connaît l'avenir. Il faut voir la situation comme une lutte majeure entre des forces de restauration et des forces de détérioration. Et c'est une lutte. Ce que sera cette planète dans 30 ans, personne ne le sait. Je me méfie des prédictions. Les êtres humains sont notablement incapables de prédire correctement ce qui va se passer. C'est un des points les plus difficiles. L'avenir n'est pas déterminé. L'avenir est ce qu'on le fera. Et il est possible que l'avenir, dans 30 ans, soit au contraire très positif.
Voilà un message d'Uberis pour vous d'ailleurs, Yves Cochet. Sachant que vous alliez venir, il souhaitait vous dire justement cela. Alors vous réagissez, il dit « personne ne peut prévoir l'avenir ». Est-ce que vous acceptez ce type de propos ?
Mais il y a une différence entre, disons, la grande tendance et les détails. Dans le détail, personne, bien entendu. Et puis dire « l'avenir sera ce que nous en ferons », a toujours été démenti, bien entendu, c'est pas comme ça, parce que il y a des lois, et Hubert Reeves, plus que d'autres les connaît, des lois de la nature qui font qu'on ne peut pas y échapper. Il y a la loi de la gravitation, bien entendu, les lois d'Einstein, si vous voulez, il y a ici les lois de l'électromagnétisme de Maxwell, et puis il y a les lois de la thermodynamique. Moi, je prétends que un homme d'industrie ou un politique qui ne connaît pas les lois de la thermodynamique n'est pas digne de gouverner ni son entreprise ni un pays.
Ah ben, il n'y en a pas beaucoup, dites donc.
Eh bien, justement, c'est pour ça qu'il se trompe. Ouais. Il se trompe lourdement. Alors, je dis qu'au contraire, maintenant, je ne dis pas qu'il est totalement déterminé dans le détail près, mais à plus de 50%, il est, pour moi certain, mais en fait très probable, qu'un effondrement, j'insiste, systémique global, simplement en regardant les rapports qu'il y a depuis 30 ans de la part notamment de l'ONU.
Sauf que, quand vous parlez des rapports, par exemple, du GIEC, oui. Même Jean Jouzel, ancien président du GIEC, n'est pas d'accord avec vous.
Mais non, mais parce que ce sont des gens qui ne veulent pas perdre la face vis-à-vis de leur père. Donc s'ils devenaient, j'allais dire, brutalement collapsologues, effondristes et catastrophistes, les gens diraient, ben, ça, il a perdu la tête, il est trop vieux, etc.
Ben Manuel non. Est en ligne avec nous au standard de France Inter. Bonjour Manuel.
Bonjour.
On vous écoute, bienvenue.
Et bien merci, et merci à votre émission de placer la collapsologie, le climat et toutes ces questions au centre des débats. Ce serait bien que ce soit le cas sur l'intégralité de l'antenne toute la journée. Je pense qu'il vaut mieux que la population soit préparée. Et ceci étant dit, donc ma question à Monsieur Yves Cochet est la suivante. La collapsologie étant notamment liée à l'effondrement de la consommation du pétrole, c'est lié d'un point de vue économique et de production du pétrole. Que répondez-vous à ceux qui prétendent, voire affirment, que l'ensemble des énergies fossiles sont encore, il y en a encore, je sais plus, ça doit être de l'ordre de 3500 milliards de barils équivalents pétrole disponibles. Donc du pétrole non conventionnel, mais qui permettrait du coup de continuer tel que nous le faisons actuellement.
Alors,
que répondez-vous à ceux qui prétendent que du coup votre théorie est mise à mal en fait par cette possible consommation, alors, production d'énergie non conventionnelle?
Alors, non conventionnel, c'est au contraire très conventionnel, car les énergies fossiles, c'est à peu près 82% de l'énergie primaire du monde, donc c'est considérable, tout à fait considérable, bien plus que les éoliennes ou le photovoltaïque, qui ne font que 1%. Et donc, c'est ça qu'il faut considérer. Alors, pour le pétrole, d'après moi, en effet, il est probable que le pétrole en production baisse dans les années 2025-2030. Encore une fois, je ne suis pas à 5 années près. Pour le gaz et le charbon, on pourrait dire ça va être plus tard parce qu'on en a plein. Mais il faut évidemment qu'il y ait une infrastructure industrielle et de très haut niveau scientifique et le transport qui puisse être là. Or, quand on regarde ce que j'appelle le système d'une dizaine d'infrastructures qui sont nécessaires pour maintenir une société telle que la nôtre, eh bien, si c'est pas celle de l'énergie, ça sera celle d'autres choses, par exemple de la nature elle-même, comme on l'a vu avec l'extinction pratiquement des insectes en Europe et l'extinction de un tiers des oiseaux en 30 ans, si ça c'est pas effrayant, à ce moment-là c'est la fin de l'agriculture. Fin de l'agriculture, fin du pétrole.
Alors sur le pétrole justement, Vincent nous dit, est-ce qu'on pourrait revenir à vos anciennes prévisions, Yves Cogé, celle de 2005 dans votre livre Pétrole Apocalypse par exemple, le baril de pétrole est-il passé à $300 sous vos anciennes prédictions, assez fantaisistes dit-il quand on les relit aujourd'hui, admettez-vous, vous êtes lourdement trompé. Pourquoi recommencer aujourd'hui ?
Alors, dans le détail, encore une fois, on peut se tromper. Pas dans ce qu'on peut appeler la big picture, c'est-à-dire la grande histoire sur 30 ans et sur 7,5 milliards d'habitants. Et je ne me suis pas trompé en ce qui concerne le pic de pétrole conventionnel, qui est d'ailleurs l'AIE elle-même, l'Agence internationale de l'énergie, a dit depuis maintenant 15 ans que c'était en 2006. En revanche, à cette époque-là, tout le monde, y compris les plus experts pétroliers, n'avait pas prévu
le gaz
boom
de schiste, hein.
Des gaz et pétrole de schiste, au type de Rochemer si on veut faire pédant, et qui continuent encore, mais qui vont s'éteindre, disons, dans 5 à 10 ans, parce que c'est pas du tout la même géologie, disons, que le pétrole conventionnel.
On a Pierre sur l'application France Inter qui dit « Monsieur Cochet fait penser à Philippus dans Tintin et l'étoile mystérieuse » qui dit « Le châtiment est proche, ça décrédibilise plus que ça ne sensibilise face au réchauffement climatique. » Et je voulais du coup, moi, rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, il faut se préparer bien à l'avance, vous le dites. Vous avez des chevaux, je crois, certes, mais pardonnez-moi, est-ce que c'est pas un peu facile quand on se déplace en voiture, quand on va faire ses courses encore au Super U, qu'on n'a pas de poule ou de potager dans son jardin, comme je crois c'est votre cas ?
Eh bien, évidemment, je suis critiquable, bien entendu, mais beaucoup moins que M. Macron, M. Trump ou M. Poutine, qui, eux, pensent qu'avec plus de croissance, plus de marché et plus de technologie, on va tout résoudre. Là, c'est vraiment des gens qui préparent l'élan vers le pire. Alors que moi, je pense qu'il faut être résilient, c'est-à-dire bien s'entendre avec ses voisins et essayer d'utiliser ce qu'on appelle les low-tech, les basses technologies, pour qu'au moment où l'effondrement arrivera, on puisse encore survivre dans des conditions civilisées et non pas comme des barbares. Car comme disait notre ami Churchill, que vous connaissez peut-être, bien que vous soyez jeune, madame, eh bien la différence entre la civilisation et la barbarie, c'est 5 repas.
Et Didier est en ligne avec nous. Bonjour Didier.
Oui, bonjour.
Bienvenue à vous dans la Terre au Carré, on vous écoute.
Écoutez, je voulais intervenir à deux niveaux. Le premier, c'est quand je vous entends dire, ou j'entends même dire Yves Cochet, qu'il y a une centaine de collapsologues en France, je pense que c'est complètement inepte.
Catastrophiste, moi, on parlait de catastrophiste, mais bon, c'est
oui,
à peu près la même chose.
Oui, mais non. Alors disons, deux gens qui réfléchissent très fortement à la façon dont ils vont vivre dans 10 ou 20 ans. J'habite à côté de Toulouse, et je connais des dizaines et des dizaines de jeunes. Donc vous, les journalistes, vous devriez aller un peu plus loin que interviewer uniquement Yves Cochet, mais allez voir ce qui se passe sur le terrain. Ça, c'est la première chose.
On le fait tous les jours dans l'émission, Didier, entre parenthèses. Hein, excusez-moi,
ouais,
mais enfin,
non.
On va voir les
ouais,
gens.
Ouais,
hein.
Vous avez ouais. raison, mais ces gens-là, on les entend jamais.
On les entend dans l'émission. Excusez-moi. Non.
La deuxième chose, c'est que j'aimerais bien que des gens comme Yves Cochet ou d'autres, mais c'est peut-être pas le but de l'émission aujourd'hui, proposent des solutions. Et des solutions, il y en a. Et que vous, les journalistes, vous alliez les chercher, ces solutions. Il y a des solutions qui s'appellent, par exemple, les villes en transition ou les manuels de villes en transition qui sont très développés, beaucoup plus développés en Angleterre qu'en France et qui proposent des solutions, comme vient de le dire Yves Cochet, permettant de mieux vivre dans 10 ans ou dans 20 ans, ou
alors,
de vivre
Didier,
d'une façon civilisée.
Didier, voilà. Yves Cochet va vous répondre. Je vous invite à rester avec nous puisque dans moins de 10 minutes, on a un reportage à Langouette en Bretagne qui est une ville vraiment en transition, un exemple en matière d'écologie. Donc on pourra écouter ça tout à l'heure. Yves Cochet, votre réponse ?
Alors je connais bien les villes en transition, notamment la première Totnes en Grande-Bretagne, avec notre ami Rob Hopkins. Bon, ce sont des bons exemples, mais c'est pas des gens qui sont collapsologues et disons catastrophistes. Ils pensent qu'il y a une possibilité de transition dure, mais possible, où tout le monde restera en vie. Moi, je vous le dis, je pense qu'en 2038, il n'y aura plus que 3 milliards de personnes sur Terre. C'est tout à fait autre chose. Et à ce moment-là, les méthodes, à la fois, ce qu'il faut faire dans la mesure de ce qu'il faut faire et le temps de ce qu'il faut faire, c'est plus tout à même. Par exemple, ce que j'appelle l'attraction animale quand j'en ai parlé et que je m'adresse à Madame Borne, eh bien, c'est pas du tout ça qu'elle fait. Donc, on va vers le pire. C'est pas du tout le même ordre de grandeur. Maintenant, bien sûr, j'encourage tout le monde, si vous dites, quelle est la solution ? Il n'y a pas de bonne solution pour éviter l'effondrement maintenant. C'est trop tard. En revanche, la bonne orientation qu'il faut prendre, c'est essayer de vivre avec des low-tech avec un bon voisinage, là où vous habitez avec vos voisins. Votre groupe Facebook en 2035 n'existera plus. Il faut donc vivre avec ses voisins, quelle que soit leur couleur de peau et leur croyance politique. C'est en fait s'entraider ou s'entretuer.
Merci Yves Cochet, merci à vous pour vos questions très nombreuses au Standard aujourd'hui et sur franceinter.fr. Devant l'effondrement, c'est donc cet essai de collapsologie que vous publiez et qui vient de paraître au Lien qui libère. Nous partons donc à Langouette en Bretagne juste après les infos.
France Inter, la Terre au carré.
Et au programme de cette deuxième demi-heure, vos solutions pour la planète avec Jean-François. C'est un auditeur de Normandie qui va nous faire découvrir l'ORE, c'est l'obligation réelle environnementale, un contrat qui permet de protéger ces terres, mais surtout la biodiversité. Et puis enfin, notre invité découverte sera Francis Duranton, le directeur du Muséum de Toulouse, pour une exposition qui commence aujourd'hui. Extinction, la fin du monde, décidément, on n'en sort pas. On parlera des espèces animales, mais pour le moment, un nouveau reportage de cette série consacré cette semaine donc à la commune de Langouette. Avec vous, Sandy Dauphin, bonjour.
Bonjour.
Langouette. Ce village breton, véritable laboratoire écologique, et on parle de transport hein, aujourd'hui.
Oui, comment verdir les transports en zone rurale? Peut-on se passer de sa voiture individuelle à la campagne? La crise des gilets jaunes a montré à quel point la question était sensible. La commune de Langouette ne prétend pas avoir de baguette magique, mais elle teste plusieurs solutions, comme la location d'une voiture électrique en libre-service.
Donc ça
c'est la borne où on va pouvoir brancher la voiture, la fameuse Zoé électrique, et il y a aussi des prises normales pour pouvoir brancher des vélos électriques éventuellement. Alors moi je suis Hélène Heuré, je suis la bibliothécaire du village, je travaille aussi sur le temps périscolaire à l'école. Et quand il y a des missions comme s'occuper de la voiture, aller nourrir les poules, moi je le fais avec plaisir aussi.
Vous vous occupez de cette borne électrique, donc c'est une voiture qui appartient à la mairie, une voiture électrique, et qui est mise à disposition des habitants.
Voilà, c'est une voiture qui est en location, donc les gens peuvent la louer à la journée, à la demi-journée ou à l'heure. Quand on habite à la campagne, ne serait-ce que pour aller faire ses courses, ça peut devenir compliqué, pour acheter du pain.
Accompagner les enfants aux activités.
Voilà, le mercredi elle est bien demandée.
Ça coûte combien ?
Alors, la voiture est louable à la journée complète pour 8 euros, à la demi-journée pour 5 euros ou à l'heure pour 2 euros. Et si on covoiture avec quelqu'un, bah, ça fait baisser le prix tout de suite. C'est intéressant.
Voilà, c'est le tracteur municipal qui arrive.
Daniel Cueff, le maire de Langouette.
Voilà, extrêmement résistant. Mais il ira jusqu'au bout. Roland, combien d'âge il a le tracteur, là ? Donc, il a 20 ans. On se disait, le jour où il tombera en panne, est-ce qu'on trouvera un tracteur électrique ?
Ici, vous avez une problématique qui avait été mise en lumière par les gilets jaunes, hein, c'est-à-dire que les gens sont dépendants de leur voiture dans presque tout leur déplacement quotidien.
C'est le problème sur lequel nous heurtons le plus aujourd'hui. La plupart des gens ici travaillent sur la métropole rennaise. Donc on utilise de l'essence, des voitures à essence, etc. Donc on a créé récemment une flotte de véhicules en autopartage et en covoiturage qui est composée de 5 véhicules, dont un véhicule électrique qui appartient à la commune. Et nous mettons ce pool, si vous voulez, de véhicules à la disposition et à l'autopartage pour que les gens covoiturent, en fait, pour aller travailler sur la métropole. Et nous sommes en train de tester avec les habitants une application qui soit la plus fonctionnelle possible et qu'il y ait une certaine fluidité, puisque c'est ça qui intéresse les gens dans la voiture, c'est de la fluidité, la rapidité, qu'on ne soit pas soumis à des trajets qui sont fixés à l'avance. Donc on essaye de travailler cet aspect-là, mais c'est notre enjeu majeur pour l'avenir, c'est la mobilité.
Il est 21h et nous attendons le retour de la voiture municipale électrique de Langouette.
Là voilà, c'est la Zoé.
Voilà, donc là, c'est une dame qui a loué la Zoé qui va se rebrancher pour la soirée, en fait.
Voilà.
Bonsoir. Donc là, vous avez loué la voiture de Langouette pour la journée. Vous l'avez utilisée pour quoi, si je puis me permettre ?
Pour mon déplacement professionnel de la journée, oui.
Vous avez une voiture particulière ?
Oui, bien sûr, oui. J'ai une voiture et donc j'utilise cette voiture-là quand j'ai un trajet plus long. Ou quand il se trouve que je roule beaucoup et je suis toute seule dans la voiture et ça me ça commence à me peser vraiment. Mais oui, et je peux pas toujours m'organiser en covoiturage parce que mes horaires sont fluctuants. Et ce qui fait que ben là, on a une voiture à dispo qui permet de polluer un peu moins et qui met pas du pétrole tout le temps à n'en plus finir. Et donc, je trouve que c'est vraiment super, quoi. Il y avait quelqu'un qui était venu me dire, ouais, mais comment on est, on peut être dans une mouvance écolo alors que bah et la voiture, alors on l'utilise. Bah oui, mais en fait, on n'a pas toutes les solutions encore. Et ce qui est assez formidable ici, c'est qu'ils essayent de créer, de proposer des solutions.
Ça phosphore beaucoup en ce moment, ouais, sur les questions de transport à Langouette. Il y a un projet, par exemple, de location de voiture entre voisins. L'idée, c'est je n'utilise pas ma voiture, elle dort dans le garage toute la journée. Ben, mmh. Je la loue à mon voisin. Alors, il y a un groupe de travail avec des citoyens, des institutionnels, justement, pour réfléchir comment on fixe le tarif, les questions d'assurance. Donc voilà, tout ça est en cours.
La suite et la fin de vos reportages donc à Langouette en Ille-et-Vilaine demain, Sandy.
On parlera des énergies renouvelables. La commune a été la première en Bretagne à installer des panneaux photovoltaïques sur les toits des bâtiments municipaux. Il y a quelques années de cela.
Et les trois premiers reportages sont à réécouter évidemment sur le site de la Terre au Carré. Merci, à demain.
France Inter, la Terre au Carré, vos solutions pour la planète.
Bonjour Jean-François.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous nous appelez de Cizé-Saint-Aubin, c'est dans l'Orne, en Normandie. Vous connaissez Camille ?
La Normandie,
presque,
l'Orne, oui.
Hein. Et vous vouliez nous parler d'un outil juridique très intéressant, Jean-François, lorsqu'on souhaite protéger la biodiversité sur son terrain, car vous allez signer prochainement, ou c'est déjà fait d'ailleurs hein ?
Oui, oui, c'est sur le bureau du notaire, donc ça y est, tous les contrôles scientifiques ont été faits. Mon notaire m'a confirmé ce matin que tout allait bien. Et donc, cette signature effectivement est effective et on prépare une inauguration en local.
Voilà, vous allez donc signer une obligation réelle environnementale de 99 ans pour préserver vos terres à haute qualité environnementale. Est-ce que vous pouvez d'abord nous décrire la nature qui vous entoure à Cizé-Saint-Aubin ?
Oui, alors on est dans une nature évidemment très rurale, hein, puisqu'on se trouve dans un cadre de biodiversité préservée. On est entouré de prairies, de boisements, de mares, de sources, et tout ça dans un environnement où la densité de population est faible, hein, puisque mon village a 160 habitants sur 15 km carrés, ça veut dire qu'il y a une densité de 10 habitants au km carré, vous voyez,
mal,
en pleine nature.
C'est tranquille. Hein.
Oui.
Et donc c'est un lieu qu'on peut qualifier de à fort intérêt biologique, qui a vraiment un qualificatif comme ça ?
Oui, tout à fait. Alors d'ailleurs, c'est exactement ce qu'a constaté le Conservatoire d'espaces naturels, dont on pourra parler un petit peu après, qui est venu sur place faire un certain nombre de relevés, d'inventaire, et qui, effectivement, m'a permis d'avoir l'honneur de pouvoir signer cette ORE, puisque les ORE sont évidemment en priorité réservées à des sites qui sont biologiquement fondamentaux et qui nécessitent évidemment qu'on y fasse attention.
Jean-François, c'est quoi précisément une obligation réelle environnementale ? Donc ça prévoit quoi ?
Alors, une ORE, moi je voudrais que tout le monde simplement ait le courage de lire deux articles du Code de l'environnement qui, en quelques lignes, disent de quoi il s'agit. Donc je voulais juste vous donner les références. C'est le L132-3 du Code de l'environnement et c'est l'article L414-11 du Code de l'environnement. Bon, déjà, il faut savoir que ça existe, et puis le lire. À partir de là, que dit cet article ? Je vais être très court, hein, je vais vous lire les trois premières lignes. Ça dit, mais chaque mot compte dans cet article, ça dit, les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public, ou une personne morale de droit privé, agissant pour la protection de l'environnement, et ce, en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu'à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, ça c'est important de le dire, que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d'éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques.
Donc Jean-François, bon, vous, c'était compte, voilà, c'est ce que vous vouliez, vous, c'était protéger la biodiversité exceptionnelle de votre terrain en réalité, hein, c'est ça ?
Complètement. Alors le mot
mot, d'ailleurs, j'ai écouté votre émission ce matin, vous avez utilisé tout à fait le bon mot, c'est sanctuariser, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'on est face à des endroits qui sont absolument préservés, mais qu'on doit continuer à surveiller, et il faut effectivement trouver un moyen de sanctuariser ça, et c'est très important en fait de le faire bien, c'est-à-dire en se faisant accompagner par des gens compétents, parce que c'est bien beau de vouloir préserver l'environnement, mais il faut aussi que vous ayez des gens compétents qui vous expliquent ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Et là, le conservatoire apporte une aide, indépendamment de ce contexte juridique, pour vous expliquer aussi ce qu'il faut faire.
Et alors, qu'est-ce que vous signez comme engagement? Qu'est-ce qui est signé précisément?
Alors, précisément, une ORE, ça se passe de la manière suivante. Déjà, pour signer une ORE, on doit être deux, c'est-à-dire il y a le propriétaire des terrains, c'est moi, et puis en face, il y a donc un organisme qui est officiellement habilité par la loi à pouvoir signer ce genre de contrat. Et donc, ça se passe devant un notaire, et on définit soi-même, hein, c'est-à-dire le propriétaire, hein, on m'impose rien. C'est-à-dire que de moi-même, j'ai envie de m'obliger à certaines règles environnementales, avec le conseil de spécialistes, évidemment, qui m'aident dans ce domaine. Et la signature devant notaire stipule toute une série d'obligations générales qu'on va fixer, par exemple, pour toutes les parcelles. Moi, j'ai 16 parcelles, donc aucune parcelle ne se ressemble. On a des obligations générales. Et ensuite, selon la variété des parcelles, on va se donner des obligations spécifiques parcelle par parcelle. Alors, d'une manière très générale, par exemple, pour vous donner un exemple, ce qui s'impose à toutes les parcelles, et j'insiste, bâties ou non bâties, ce sont des choses très classiques, mais qu'on s'engage à respecter, conserver les haies, conserver l'état des sources, ne pas les assécher, ne pas les combler, éviter toute intervention qui pourrait nuire ou porter atteinte aux habitats et aux espèces, et puis ne pas utiliser de désherbants ou de produits phytosanitaires. Bon, ça c'est la règle générale que je me donne, hein, et qui donc est une obligation que je me fais à moi-même. Et puis ensuite, pour chaque parcelle individuellement, je ne vais pas toutes vous les lister, on va définir un certain nombre d'obligations spécifiques. Et dans ces obligations spécifiques, ici, j'en ai qui concernent directement tout ce qui est de l'eau.
Et Jean-François,
c'est-à-dire les sources, ouais, les mares, tout ce qui tourne autour de l'eau, qui est une ressource rare et pour laquelle il y a effectivement, véritablement, à protéger beaucoup de choses.
Voilà, et on le disait donc que vous avez opté pour un engagement de 99 ans, ce qui fait que si un futur propriétaire rachète votre terrain, bah, il sera obligé de poursuivre justement votre démarche. Voilà, ça s'appelle l'ORE. Peu de gens connaissent encore eh bien justement cet outil qu'on peut trouver bah, n'importe où maintenant et signer donc ce contrat auprès d'un notaire et pour protéger bah, n'importe quel type de biodiversité, d'ailleurs à la campagne comme en ville. Merci beaucoup Jean-François de nous en avoir parlé aujourd'hui. Et puis pour tous ceux qui souhaitent avoir plus de renseignements, on met les détails évidemment sur le site de la Terre au Carré. I had to think about my oldest friends. Now I no longer hang with them. And I can't wait to be home again. I had a year that nearly sent me off the edge. I feel like a five, I can't pretend. But if I get my shit together this year, maybe I'll be a ten. Myself a little better, 'cause it's getting tiring, and I can't wait for the summer. No, I'm gonna need a moment. I did it again, I did it again. No control over my emotions. 1 year on and I still can't focus. I did it again, yeah, I did it again. 12 rounds in, fighting solo, but nobody wins when it ends. We'll be placing memories in frames, inviting people round to stay, and always owning up to things, to things. 'Cause after all, I guess it all depends upon the people you choose and where you're from. If so, I've been so lucky so far, it's outrageous. I won't complain, give myself a little credit since I dealt with all the pain. Yeah, I turned superhero.
carry on. And though it's still hard work to find the words, I'm still gonna write this fucking song. Cause after all, I guess it all depends upon the people you choose and where you're from.
Ten on ten, c'était Rex Orange County.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Là, nous avons commencé en parlant d'effondrement, et nous allons terminer en parlant d'extinction avec une exposition.
Et de la vie.
Voilà, mais c'est une thématique aujourd'hui. La fin du monde ouvre ses portes aujourd'hui donc au Muséum de Toulouse. Et nous sommes en duplex des studios de France Bleu Occitanie, justement à Toulouse, avec vous, Francis Duranton. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Vous êtes paléontologue et directeur du Muséum de Toulouse. Alors vous aussi, vous jouez la carte de l'apocalypse?
Non, pas la carte de l'apocalypse, mais la carte de l'alerte de l'imminence de la crise. Nous sommes au bord d'une grande crise de biodiversité. Tous les indicateurs le montrent, tous les rapports scientifiques le montrent les uns à la suite des autres. Et il était temps de consacrer une exposition à ce thème en France pour alerter finalement les publics et les citoyens sur l'urgence de décider d'agir un petit peu en faveur de cette biodiversité. Et ce que vient de faire mon prédécesseur en signant ce contrat est un bel exemple de ce que l'on peut réaliser.
Ouais, alors on en parlait avec Yves Cochet tout à l'heure. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce soit contre-productif pour attirer le public sur la base d'un thème comme celui-là ?
Non, je ne crois pas que ce soit contre-productif, parce que de toute façon, cette exposition n'est pas une exposition apocalyptique. On explique que d'abord, l'extinction, c'est le principe même aussi du développement de la vie. Toutes les espèces apparaissent, se développent et disparaissent. Ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est la question du taux d'extinction, qui n'a jamais été aussi fort, et la vitesse de ce taux continue à augmenter de plus en plus vite. Donc là, on a véritablement tous les voyants qui sont en train de passer au rouge, et il est urgent d'agir. Mais en même temps, on montre que tout espoir n'est pas perdu, que certaines politiques de préservation sont couronnées de succès et que bien évidemment il est important de prendre en compte les éléments de la biodiversité pour faire en sorte que le futur que nous réservons à nos enfants mais soit aussi celui, le passé que nous aurons connu, c'est-à-dire on ne peut pas livrer à nos enfants un monde sans tout dépendre entier de la biodiversité, qu'il s'agisse de biodiversité lointaine comme les éléphants, les rhinocéros ou autres, mais également plus près de nous, plus près de Toulouse par exemple, le bouquetin des Pyrénées a disparu, le décement est en danger, voilà, il y a quand même des choses à faire.
Et du coup, qu'est-ce qu'on voit, Francis Duranton, dans l'exposition, très concrètement?
Alors très concrètement, on voit des spécimens d'histoire naturelle. Nous sommes dans un musée d'histoire naturelle, donc nous allons pouvoir découvrir aussi bien des espèces disparues au cours des temps géologiques, comme par exemple le casmosaure, qui est une sorte de dinosaure.
Le casmosaure,
qui est une sorte de dinosaure cousin du tricératops, si vous voulez. Celui-là, vous le connaissez mieux, certainement. Mais également, on découvrira l'histoire tragique du dodo de l'île Maurice, mais également des spécimens aujourd'hui menacés ou en danger, voire disparus, notamment sur un certain nombre d'îles ou de secteurs dépendant autrefois de l'ex-empire britannique, puisque cette exposition a également été conçu avec le partenariat du Musée d'histoire naturelle de Londres.
Alors justement, vous parlez dans cette exposition du cas de l'ours des Pyrénées. On écoute un sujet justement autour de l'ours.
Mardi 2 novembre 2004, une image domine l'actualité. Celle d'un hélicoptère de la gendarmerie nationale qui élitreuille à l'aide d'un filet la dépouille de Canel pour la conduire à l'école vétérinaire de Toulouse où elle sera autopsiée. Et chacun de prendre soudainement conscience, par cette image terrible, qu'une part du patrimoine écologique européen s'est subitement éteint. La victime, elle se prénomme Canel. 1,70 m debout, 95 kg, c'est un ours femelle, le dernier représentant de la race locale.
Francis Duranton, Canel 2004. Hein. Évidemment, il y a une place pour Canel dans l'exposition et pour les ours.
Alors, Canel n'est pas dans l'exposition sur les ours, puisqu'elle est en ce moment en train de voyager à l'étranger. Elle était à Bruxelles, elle est en cours de retour maintenant vers Toulouse. Mais il y a de la place pour d'autres espèces pyrénéennes. Je citais tout à l'heure le bouquetin des Pyrénées qui a disparu. En tout cas, la sous-espèce pyrénéenne a disparu. On est en train, actuellement, le ministère poursuit une politique de réintroduction du bouquetin dans les Pyrénées, mais avec des bouquetins qui ne sont pas les bouquetins pyrénéens d'origine. Voilà. Donc on voit bien que ces grands mouvements et ces phases d'extinction d'espèces nous touchent également, nous ici en France, et qu'il est important d'agir, chacun à notre niveau, pour faire en sorte de préserver au maximum cette biodiversité.
Bon, l'idée c'est aussi de montrer la diversité quand même du monde, hein, et la beauté du monde quand même.
Voilà, alors effectivement, c'est pas une exposition qui joue sur les ressorts du drame, elle joue véritablement sur les ressorts de l'alerte, mais en même temps sur les ressorts de l'esthétique. C'est une belle exposition, il y a de très beaux spécimens qui sont présentés, et en même temps, le monde monde de la nature est un monde extrêmement fascinant. Il y a une diversité de formes, de couleurs et autres qui ne peuvent finalement que nous la rendre sympathique d'une certaine manière, de façon à comprendre que, de toute façon, un des points importants, une image que j'utilise souvent, c'est-à-dire la biodiversité. Bon, je suis à Toulouse. La biodiversité, c'est une sorte d'avion. Nous sommes les pilotes de l'avion et la biodiversité, ce sont les rivets qui attachent les ailes à l'avion. On peut lever un rivet, c'est pas trop grave. Au bout de quelques rivets, l'aile commence à vibrer. Nous sommes au moment où ça commence à vibrer très très fort. Le prochain coup, c'est tout simplement l'aile qui se détache et l'avion qui s'écrase. Et le problème, c'est que nous sommes dans la carlingue de l'avion. Donc il faut bien comprendre que les enjeux aujourd'hui sont importants. Les enjeux de la conservation de la biodiversité, c'est aussi l'enjeu de l'avenir de notre propre espèce.
Ouais. Francis Danton, on essaie, nous, de faire des efforts pour éviter le catastrophisme. Vous nous aidez pas beaucoup, là, franchement, avec
non,
vos métaphores.
Non, il n'y a pas de catastrophisme. Je crois qu'il y a, il faut, il, d'abord, chacun peut agir à son niveau. C'est déjà aussi un message qu'on veut faire passer. Chacun peut agir à son niveau. Alors, bien sûr, hein, on est sur la question d'être sobre, peut-être éviter de changer son smartphone à chaque fois qu'il y a un nouveau modèle qui sort, pratiquer le tri, le recyclage, tout ça, ça participe de la conservation de la biodiversité. C'est également éviter d'imperméabiliser les sols, c'est planter des espèces locales plutôt que des espèces exotiques lorsqu'on travaille dans son jardin. Bref, il y a plein d'actions que l'on peut faire, chacun à notre niveau, et je pense que s'il y avait un paradigme autrefois qui disait il faut penser globalement et agir localement, je crois qu'aujourd'hui il faut penser local, parce que la multiplication des actions locales aura fatalement un impact au niveau global. Mais pour ça, il faut que le monde citoyen se mobilise et je pense que chacun, à notre niveau, on a des capacités à agir.
Alors Francis Duranton, on va faire un petit exercice. Je me téléporte tout de suite maintenant au musée dans l'exposition. Là, pour l'instant, j'ai en tête du coup les spécimens dont vous m'avez parlé. Je me balade. Est-ce qu'il y a des choses qui me donnent espoir aussi sous mes yeux, des couleurs, des animaux qui ne sont pas morts et qui n'ont pas
sûr,
disparu,
on a
des belles photos, je ne sais pas.
Voilà,
faites-moi rêver.
Déjà, il y a de belles photos, il y a de très beaux animaux naturalisés. Il y a également des exemples de politiques de conservation couronnées de succès. Je pense par exemple à tout ce qui a été fait pour sauver l'oryx, cette extraordinaire antilope qui vit dans les déserts, notamment en Afrique de l'Est et autres. La politique a été couronnée de succès et aujourd'hui, cette espèce qui était extrêmement menacée est en train de se rétablir et est en train de se redévelopper dans ces zones-là. Donc on voit bien que ces actions, même si effectivement elles ne sont pas faciles forcément à mettre en œuvre, elles peuvent être couronnées de succès. Et il y a plein d'exemples dans lesquels on peut travailler à maintenir cette biodiversité par différents moyens. Voilà. Donc il y a à la fois des grands plans nationaux, il y a également des actions locales qui sont menées. Donc il y a de l'espoir. Moi, je garde espoir parce que j'ai confiance en l'homme, de toute façon.
Francis Duranton, comment vous avez travaillé avec le musée de Londres, justement, sur l'exposition? Vous avez enrichi avec vos propres collections à Toulouse?
Oui, tout à fait. Nous avons enrichi avec notamment l'idée de montrer que la question des problèmes liés à la biodiversité n'est pas une question lointaine. Et très souvent, lorsqu'on parle de ça, on s'imagine que l'enjeu du biodiversité, c'est l'Amazonie, ce sont les forêts indonésiennes et autres. Bien sûr qu'il y a des enjeux là-bas, mais il y a également des enjeux chez nous. C'est-à-dire l'idée, c'était de montrer que chacun peut agir chez lui parce que les problèmes que l'on rencontre sont des problèmes à l'échelle mondiale. Mais ce n'est que par une action à la fois locale et concertée mondialement que l'on pourra résoudre ces problèmes-là. On montre par exemple le dessement des Pyrénées, pour lequel un grand plan de sauvegarde est engagé. On montre le bouquetin des Pyrénées. Bref, on montre également la difficulté que l'on a, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Le problème n'est pas simple. On est sur des modèles économiques, on est sur des paradigmes qu'aujourd'hui il faut peut-être repenser ou penser différemment, de façon à envisager un avenir plus serein pour les espèces qui nous entourent. En fait, c'est comment arrivons-nous à partager l'espace tout en permettant à une vie sauvage de s'épanouir pleinement.
Alors, l'exposition a ouvert aujourd'hui, hein, ce matin,
oui,
me semble-t-il.
Il y a
déjà eu des réactions, vous avez vu un peu, c'est quoi? C'est des scolaires qui sont venus. Comment ils réagissent, notamment les jeunes, si vous en avez vu depuis ce matin?
Alors, les jeunes ce matin étaient extrêmement intéressés en nous disant qu'est-ce qu'on peut faire, voilà. Et ça, c'est pour moi, c'est extrêmement important. C'est d'ailleurs pour ça qu'au muséum, on a lancé une grande action auprès des scolaires d'Occitanie en leur demandant de bâtir un projet de biodiversité pour leur commune, c'est-à-dire leur montrer qu'ils peuvent s'engager localement en discussion avec les différentes associations, des scientifiques, mais également les décideurs politiques, économiques, pour mettre en place quelques actions localement qui pourraient permettre de favoriser l'essor de la biodiversité, ou tout au moins le maintien de la biodiversité.
Et il y avait du monde ce matin.
Ah, ce matin, il y avait du monde et j'espère bien que nous allons avoir beaucoup de monde dans cette exposition, parce que vraiment je pense qu'on a fait un travail qui était honnête, c'est-à-dire montrer que l'extinction, c'est inhérent à la vie, mais qu'aujourd'hui, nos activités sont au cœur du problème de l'extinction.
Pourquoi vous avez mis un grand singe, justement, là, à une, pour incarner cette exposition sur les extinctions ?
Alors c'est effectivement nos plus proches parents dont on sait qu'aujourd'hui ils sont extrêmement menacés dans leur environnement. Alors bon, nous avons choisi de mettre un grand singe parce qu'en même temps c'est probablement l'animal envers lequel on a le plus de ressemblance, et le fait de le voir penser un peu à la manière de Rodin tout en se désintégrant,
oui,
comme le montre l'affiche, ben c'est destiné à nous faire réfléchir, nous faire nous impliquer, à se poser véritablement les questions.
Est-ce qu'il y a des technologies intéressantes là aujourd'hui qui peuvent aider justement à maintenir en tout cas la biodiversité animale?
Alors bien sûr, il y a des technologies qui sont déployées, notamment je pense dans tous les systèmes qui permettent de traiter les eaux en particulier. Il y a des systèmes de membranes, des systèmes de filtration qui sont de plus en plus efficaces, de plus en plus pertinents. Donc bien évidemment, il y a toute une recherche qui se développe aussi, dont les conséquences pourront permettre de protéger la biodiversité. Mais la meilleure des choses, pour éviter d'avoir à filtrer des eaux, la première des choses, c'est d'éviter de les polluer, par exemple. Ça nous évitera beaucoup de problèmes. Donc les technologies pourront résoudre un certain nombre de choses, très certainement. Elles ne résoudront certainement pas tout, et il nous appartient de faire en sorte de maintenir, si vous voulez, cet équilibre ou ces équilibres, parce que ce sont toujours des équilibres complexes, pour permettre aux espèces de se développer.
Merci Francis Duranton. C'est donc Extinction, la fin d'un monde, point d'interrogation. C'est à voir à partir d'aujourd'hui au Muséum de Toulouse, et vous avez jusqu'au 28 juin 2020
le temps
pour
d'y aller,
vous y
parfait.
Rendre. Merci beaucoup Francis Duranton.
Merci à vous.
Merci à Denis Delbecq à la rédaction en chef de l'émission, et Thierry Dupin pour la programmation musicale.